Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 13 février 2023. J'ai l'honneur de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et la Russie étudient la livraison de pétrole et de gaz naturel russe via l'Iran à d'autres pays dans le cadre d'un accord d'échange. En Syrie, l'aide aux sinistrés du tremblement de terre bloqué par le groupe terroriste Ayat Tahrir al-Sham. Des Français ont manifesté pour la sortie de leur pays de l'OTAN et contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et l'Algérie assure le Niger de sa solidarité dans la lutte nigérienne contre le terrorisme. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran et la Russie sont toujours en pourparlers sur un accord potentiel qui permettra la livraison de pétrole et de gaz naturel russe via l'Iran à d'autres pays dans le cadre d'un accord d'échange. S'adressant aux journalistes à Moscou, samedi, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a qualifié un éventuel accord d'échange de pétrole et de gaz entre l'Iran et la Russie de projet prometteur. Les possibilités techniques sont en cours d'examen. C'est pourquoi ce projet est considéré comme prometteur, a déclaré Novak. Il avait précédemment indiqué qu'une première étape de l'accord pourrait permettre à la Russie d'offrir jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 5 millions de tonnes de pétrole à l'Iran pour livraison de la même quantité à d'autres pays de la région dans le cadre d'un accord d'échange. Dans le cadre d'un accord similaire, l'Iran importe actuellement du gaz naturel du Turkménistan pour la consommation dans son nord-est, tout en livrant à partir de ses propres approvisionnements à l'Azerbaïdjan dans le nord-ouest. Les négociations sur un accord d'échange entre l'Iran et la Russie ont pris un nouvel élan au début de 2022, après que les exportations de gaz de la Russie vers l'Europe ont été soumises à des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine. Le bilan du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie pourrait doubler au plus par rapport au bilan du dimanche, qui s'élève à 33 179 morts. A mise en garde dimanche 12 février, le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths. Selon les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait au moins 33 172 morts, 29 605 en Turquie et 3 574 en Syrie. Je pense qu'il est difficile d'estimer précisément un bilan, car nous devons passer sous les décombres. On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts, a déclaré Martin Griffiths, qui s'est rendu samedi 11 février à la ville de Kahramanmaraş, située dans le sud de la Turquie, l'épicentre du premier tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a bouleversé des millions de vies lundi 6 février. Selon lui, l'espoir de trouver des survivants sous les décombres s'amenuise à mesure que l'on s'éloigne de la fenêtre cruciale des 72 heures qui est la période d'or pour les opérations de sauvetage. Plus de 32 000 membres du personnel de gestion des catastrophes d'organisations turques ont été déployés dans les zones touchées et travaillent sur les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré l'agence turque des catastrophes. Près de 26 millions d'habitants ont été touchés par le séisme, a expliqué l'Organisation mondiale de la santé samedi en lançant un appel aux dons de 42,8 millions de dollars pour financer les besoins immédiats en matière de santé. Les Nations unies ont averti qu'au moins 870 000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu'à 5,3 millions seraient actuellement sans toit, rien qu'en Syrie. En Syrie, les conditions sont encore pires, car le pays a été frappé par des années de guerre soutenues par l'Occident et s'ajoutant aux défis, les dures sanctions américaines créent des difficultés pour acheminer l'aide humanitaire en Syrie. Les Nations unies ont déclaré que le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham empêche l'acheminement d'aide vers les zones sinistrées du nord de la Syrie. L'aide humanitaire destinée aux régions syriennes, contrôlée par les terroristes, a été bloquée en raison de problèmes d'approbation par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, a déclaré dimanche un porte-parole des Nations unies. L'OHTC lance des attaques sanglantes contre le peuple et les forces gouvernementaux depuis 2011, alors que la Syrie est touchée par le terrorisme soutenu par l'étranger. Le secteur nord de la Syrie, qui est actuellement sous le contrôle du HTC, Hayat Tahrir al-Sham a reçu peu d'aide humanitaire car les terroristes ont fermé les lignes de front sur le gouvernement, malgré l'annonce la semaine dernière par Damas de sa volonté d'envoyer de l'aide dans cette région. Pendant ce temps, Reuters a cité une source auprès du HTC qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, confirmant que ce groupe terroriste ne laisserait pas l'acheminement des aides humanitaires en provenance des secteurs de la Syrie repris par le gouvernement. Nous ne permettrons pas au régime de profiter de la situation pour montrer qu'ils aident. Toujours en Syrie, le groupe terroriste Daesh a tué dimanche 11 des 75 personnes qu'il avait enlevées la veille dans l'est du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Une femme et un membre des forces gouvernementales syriennes font partie des victimes, selon l'OSDH. Les 75 travailleurs ont été kidnappés samedi par Daesh près de la ville de Palmyre alors qu'ils ramassaient des truffes, d'après l'OSTH. Le destin des 64 autres personnes enlevées demeure inconnu pour l'heure, a noté l'organisme. L'OSTH a expliqué que Daesh avait profité du fait que les regards du monde entier étaient tournés vers les séismes dévastateurs qui ont récemment frappé la Turquie et la Syrie pour tuer les victimes. Les terroristes daéchistes se sont emparés de la région désertique de l'est de la Syrie pour s'en faire un refuge après les lourdes pertes qu'ils ont subies en 2018. Ils attaquent et enlèvent régulièrement des civils et des soldats dans la région. Le cabinet d'extrême droite du régime sioniste a décidé de légaliser 9 avant-postes de colons en Cisjordanie occupée, au mépris des protestations de la communauté internationale et des Palestiniens qui veulent mettre fin au projet de colonisation d'Israël. L'autorisation rétroactive des avant-postes marque la première mesure de ce type à être prise par le nouveau cabinet israélien qui a pris le pouvoir fin décembre avec une combinaison de partis d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Le premier ministre israélien a décrit l'expansion des colonies du régime comme la priorité absolue de son cabinet afin d'obtenir les votes des partis extrémistes. La communauté internationale considère les colonies, dont des centaines ont été construites à travers la Cisjordanie depuis l'occupation du territoire par l'entité sioniste en 1967, comme illégales en raison de leur construction sur les territoires occupés. Dimanche également, un communiqué du bureau de Netanyahou a indiqué qu'un comité de planification devait se réunir dans les prochains jours pour approuver de nouvelles unités de colons et la construction en masse de davantage d'unités dans les colonies existantes. Le ministre israélien des Finances du cabinet d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a estimé le nombre d'unités à 10 000. Réagissant à la décision du cabinet israélien Nabil Abu Daina, le porte-parole du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné cette décision comme une provocation qui conduirait à de nouvelles tensions, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne, Wafa. Il a également dénoncé les projets du régime d'augmenter de façon vertigineuse le nombre d'unités de colons. Abu Radaina a souligné que toutes les mesures unilatérales sont rejetées conformément aux résolutions de la légitimité internationale et aux accords bilatéraux. Des Français ont manifesté ce dimanche 12 février à l'appel du président des Patriotes, Florian Philippot, pour la sortie de leur pays de l'OTAN et contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Une marche en faveur de la sortie de la France de l'Alliance Atlantique s'est déroulée à Paris, à l'initiative du président des Patriotes, Florian Philippot, qui assure que des milliers de personnes y ont pris part. Les manifestants réclament également la fin des livraisons d'armes occidentales aux autorités ukrainiennes. L'Algérie condamne fermement la récente attaque terroriste contre un détachement de l'armée nigérienne, assurant le Niger de sa solidarité dans la lutte nigérienne contre le terrorisme, a déclaré dimanche le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste menée vendredi contre un détachement de l'armée nigérienne en patrouille dans la localité d'Intagamé, dans le sud-est du Niger, à la frontière avec le Mali, faisant plusieurs morts et blessés parmi les soldats, dont certains sont portés disparus, indique le communiqué. L'Algérie a aussi réitéré son appel à l'éradication du terrorisme, qui impacte négativement la paix, la sécurité et le développement en Afrique, selon la même source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Donbass, les non-dits de l'attaque chimique des drones ukrainiens. Un scientifique, un correspondant de guerre, dans leurs estimations, dans un rapport publié 12 février sur le site Sputnik, sur ce que serait la substance chimique utilisée dans les attaques de drones ukrainiennes dans le Donbass. Selon une version, il s'agit de cyanure d'hydrogène. Dans différents secteurs des combats, principalement sur les axes de Soledar et d'Artyomovsk, des commandants militaires russes signalent l'utilisation d'armes chimiques par les forces ukrainiennes. Une information qui a été confirmée par le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin. Selon lui, des drones sont utilisés pour larguer des armes chimiques. Mais de quelle substance s'agit-il ? Alors que Vladimir Kozin, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie, n'a pas de version précise, il pointe auprès de Sputnik les symptômes provoqués par ces agents chimiques, c'est-à-dire des lésions des voies respiratoires et des muqueuses. Le correspondant de guerre de Sputnik, Sergei Shilov, estime pour sa part que c'est du cyanure d'hydrogène HCN. Comme il s'agit d'un liquide volatile toxique sur les vidéos, il est possible de voir qu'il est conservé au réfrigérateur. De 85% à 90% des cas d'empoisonnement se soldent par la mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'aide du HCN, les Allemands ont fabriqué le poison Zyklon B pour tuer les prisonniers des camps de concentration, dit le journaliste. Quant au recours aux drones par les forces ukrainiennes, Sergei Shilov précise qu'il s'agit d'attaques en intérieur parce qu'ainsi la concentration de poison mortel augmente dans l'air, puisque l'intoxication devient possible même à travers la peau. Un autre signe indirect de la présence d'une substance toxique dans les munitions est que les drones kamikazes ne sont pas des Mavic ordinaires, drones produits par la Chine, mais des FPV, qui sont extrêmement maniables, capables de voler entre des branches d'arbres. Les recherches sont en cours en République populaire de Donetsk pour la mise en place des moyens supplémentaires de protéger les troupes russes contre les armes chimiques utilisées par les forces ukrainiennes. a déclaré lundi 6 février le chef par intérim de la région, Denis Pushilin. Yan Gagin, conseiller du chef de la République populaire de Donetsk, a déclaré plus tôt que les forces du régime de Kiev avaient utilisé des armes chimiques le long des lignes de front de Soledar et d'Artyomovsk le 5 février. Gagin a souligné que ce n'était pas la première fois que l'Ukraine utilisait des armes chimiques, ajoutant que l'armée ukrainienne n'a pas caché qu'elle était en possession d'armes interdites et a même publié des vidéos montrant des grenades à gaz importées et des drones conçus pour les décharger. Denis Pushilin a déclaré lundi 6 février que des preuves corroborant l'utilisation d'armes chimiques par les forces armées ukrainiennes avaient également été trouvées le long de la ligne de front du Gledar.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, nous allons voir de plus près la politique de deux poids, deux mesures des Américains suite au tremblement de terre qui a secoué la Turquie et la Syrie. Le fléau naturel a bien sûr peu contribué pour adoucir la position hostile de Washington envers la Syrie. La levée des sanctions pourrait très bien ouvrir des portes pour apporter des aides humanitaires à la Turquie et à la Syrie, particulièrement la Syrie, bien sûr. Nous parlons également de la position d'Israël qui essaye de dissimuler son rôle dans l'insécurité et l'instabilité dans la région en apportant son aide humanitaire à la Turquie et à la Syrie. Voilà, nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau des experts de questions internationales qui vont développer ces questions. Tout d'abord, un reportage que je vous invite à regarder. Restez avec nous, je vous prie.
Le porte-parole du département d'État américain a tenté de dissimuler l'attitude politique de Washington envers le tremblement de terre dévastateur qui a secoué lundi 6 février la Turquie et la Syrie voisine. Interrogé par un journaliste peu après le séisme survenu lundi 6 février, voulant savoir si les États-Unis soutenaient seulement la Turquie et qu'ils n'aideraient pas le peuple syrien touché par le tremblement de terre, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a répondu « La Turquie est un allié important de l'OTAN ». Le diplomate américain a par ailleurs prétendu que Washington soutenait également le peuple syrien et qu'il était son plus grand soutien financier, affirmant « Nous nous engageons à aider nos alliés turcs également à répondre aux besoins humanitaires du peuple syrien ». Ned Price a cependant noté « Il serait assez ironique, voire contre-productif, que nous tendions la main à un gouvernement qui a brutalisé son peuple au cours d'une douzaine d'années maintenant. Au lieu de cela, nous avons des partenaires humanitaires sur le terrain qui peuvent fournir le type d'assistance ». Price a par ailleurs allégué que les États-Unis avaient déjà mobilisé une assistance pour aider les personnes touchées dans les deux pays. Il paraît néanmoins que le fléau naturel a pu contribuer à adoucir la position hostile de Washington envers le gouvernement de Damas. Lundi, l'Américain Arab Anti-Discrimination Committee, ADC, un groupe de défense basé aux États-Unis, a appelé à la levée immédiate des sanctions américaines pour faciliter l'acheminement de l'aide à la Syrie.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts de questions internationales, en commençant par Aïssa Midani, experte franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur, Madame Madani, Midani, bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour votre invitation et bonjour à toute l'équipe.
Tout le plaisir est pour nous, Madame Midani. Un grand bonjour à Monsieur Arnaud Develay, juriste international qui est avec nous depuis Moscou. Monsieur Devolé, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à vous, Madame Midani. Alors, nous parlons bien sûr de cette politique de deux poids, deux mesures de la part des Américains. Et ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière fois. Quand il est question d'aider des gens, on a l'impression que des vies sont différentes selon donc des nationalités. Que pensez-vous?
Oui, d'abord, effectivement, ce n'est pas la première fois que les Américains pratiquent les deux poids, deux mesures. Moi, j'ajouterais l'ensemble des Occidentaux aussi, parce que j'ajouterais aux Américains, les Européens et tous les pays qui sont dans l'OTAN, sous la férule américaine. Effectivement, les deux poids, deux mesures, c'est une pratique systématique, je dirais, puisque de toute façon, même déjà par rapport aux Palestiniens en Palestine occupés entre les morts palestiniens et les morts israéliens, ils n'ont pas les mêmes poids, ils n'agitent pas les mêmes réactions. Et la même chose d'ailleurs en Syrie, depuis 12 ans maintenant qu'ils pratiquent une agression systématique contre la Syrie, soi-disant pour libérer le peuple syrien. Et ils pleurent sur le peuple syrien, mais en même temps, ils pratiquent, non seulement ils sont passés de l'envoi des terroristes qui coupent les têtes et qui éventrent les gens et qui détruisent toute l'infrastructure, après, quand la Syrie a réussi à vaincre tous ces proxys envoyés par l'Occident, ils ont commencé par mettre ils ont mis ou accentué, je dirais, ce qu'ils appellent sanctions, mais des mesures coercitives qui empêchent le peuple syrien de vivre, ajouter au pillage systématique de toutes nos ressources, et entre autres, je cite, entre autres seulement, le pétrole et le carburant qu'ils pillent complètement aujourd'hui dans ces hivers qui se sont succédés, qui sont terriblement froids, où on fait geler le peuple syrien de froid, mais aussi en même temps le pillage de nos paniers alimentaires, j'allais dire, de toutes les céréales, des fruits, etc., dans la région. Pardon, excusez-moi. Donc, tout ceci en disant c'est pour sauver le peuple syrien. Et maintenant, avec une catastrophe naturelle comme celle qui est arrivée le 6 février, une très importante, un sinistre important de ce séisme qui a envahi toute la région, donc qui s'est passé dans le sud de la Turquie et qui a aussi causé de grands drames en Syrie aussi. Eh bien, de toute façon, eux, ils ne voient pas ça. Toutes les aides ont été envoyées à la Turquie et pas en Syrie. Ils refusent d'envoyer ils accentuent, je veux dire, l'embargo, le blocus, mais bien au contraire, ils affirment que, de toute façon, c'est à travers les terroristes qu'ils ont envoyés qu'il faut que l'aide arrive à la Syrie. Ça veut dire qu'ils veulent effectivement renforcer, profiter de cette catastrophe naturelle pour renforcer ou reprendre la guerre contre la Syrie par les terroristes, et en les réarmant et en leur donnant aussi les aides dites humanitaires, mais sous prétexte d'aide humanitaire, encore une fois, le renforcement de leur armement et de leur organisation. Je voudrais quand même ajouter, aujourd'hui, ils envoient des milliers de casques blancs en ce moment en Syrie aussi, dans la région occupée d'Idlib et donc occupée par les terroristes d'Idlib, et dans l'espoir toujours de renverser la vapeur en Syrie. Absolument. Et de reprendre les agressions contre ce pays qui tient, je tiens quand même à le rappeler, qui tient victorieusement face à cette agression horrible depuis 12 ans. Et maintenant, avec la catastrophe naturelle, ils viennent aussi profiter de cette situation pour vaincre, renverser cette victoire de la Syrie et essayer d'arriver à leur plan qui est de détruire la Syrie. De toute façon, ils ont de l'affirmation de tous les responsables politiques, des responsables politiques américains. Nous voulons ramener la Syrie à l'âge de pierre. Nous allons geler le peuple syrien. Nous allons affamer le peuple syrien pour qu'il change sa politique et pour qu'il tout ça sous prétexte de défendre le peuple syrien.
Tout à fait.
Voilà, c'est...
Oui, absolument.
Excusez-moi.
Oui, voilà. Je vous en prie. Maître Develet, vous êtes avec nous depuis Moscou. Alors, ce fléau naturel, bien sûr, très triste, n'a pas beaucoup contribué à adoucir donc, les sanctions et cette position hostile de Washington envers la Syrie. Que pensez-vous, je vous prie?
Ben écoutez, c'est très simple. Il suffit juste de se référer aux déclarations, c'était déjà en 2019, de l'employée du département de la Défense, Deborah Strull. Deborah Strull a pris la relève de Jim Jeffries quand il est parti. Et Jim Jeffries, la doctrine Jeffries consiste effectivement à s'accaparer toutes les parties les plus juteuses du pays, si je puis dire, afin de réduire les capacités du gouvernement syrien à fournir l'essentiel au peuple syrien. Dr Midani l'a souligné, que ce soit le carburant, que ce soit les céréales, que ce soit le gaz, que ce soit même l'acheminement de l'aide humanitaire, puisqu'on a vu depuis maintenant 2-3 ans toujours un petit peu la même danse du ventre, à chaque fois qu'il faut renouveler tous les 6 mois l'accès à de l'aide humanitaire à la Syrie. Il y a un point de passage qui passe de la Turquie au nord-ouest de la Syrie et c'est toujours du marchandage au Conseil de sécurité. L'allié russe tient bon à chaque fois et en fait essaye de laisser entendre que si ce point de transit doit être renouvelé, ce sera avec des conditions. Mais toujours est-il que dans le contexte de du tremblement de terre d'il y a deux jours, effectivement, là, cette situation d'embargo systématique, Madame Midani l'a souligné, le conflit militaire étant plus ou moins gelé sur certaines zones et plus ou moins terminé dans la plupart des autres, le régime de sanctions a été accentué à partir du 17 juin 2020 avec le passage du régime César. Et force est d'avouer que oui, la pression est énorme. Les Américains continuent à piller systématiquement les ressources dans le Nord-Est. C'est pratiquement un ou deux convois par semaine qui quittent le pays pour aller, on peut le subodorer, financer leur présence en Irak et renforcer leurs opérations de déstabilisation dans le Kurdistan irakien, justement en visant votre pays. Et dans ce contexte-là, effectivement, la situation qui prévaut dans le pays depuis 12 ans se trouve accentuée, soulignée, parce que le carburant manquant, c'est difficile d'acheminer les machines nécessaires pour aller chercher les personnes qui seraient encore bloquées sous les décombres. Et on sait dans ce genre de situation que le temps compte. On a peut-être une fenêtre de 72 heures, pas plus, pour essayer de sortir les gens des décombres. Donc, juste un mot sur effectivement la guerre de l'information, hein, et les guerres psychologiques exercées par Washington et Tel Aviv, à savoir leur larme de crocodile sur le fait qu'ils seraient disposés à prendre leur part, à cheminer, faire des efforts pour contribuer à l'aide humanitaire. Effectivement, tout ça, c'est complètement faux. Quand on connaît la doctrine fondamentale du gouvernement syrien, il est absolument impensable de toute façon qu'une telle offre soit ne serait-ce que prise en compte. Le gouvernement syrien ne se laissera pas compter par ce genre de manipulation grossière. Et donc, en l'état, ce sont les alliés de la Syrie qui fournissent les premiers soins et l'aide d'urgence, que ce soit le parti de la résistance libanais, que ce soit la République islamique d'Iran ou que ce soit la Fédération de Russie.
Oui. Maître Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Midani quand elle a dit que donc certains pays profitent donc de la situation de ce fléau, bien sûr, naturel, pour donc assurer leur donc dictat donc à ces pays-là?
Oui, tout à fait. C'est une forme de sévice, de torture psychologique. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui, en plus de ça, a été démontré à maintes reprises comme ne marchant pas du tout, c'est essayer de transformer l'opinion publique syrienne et la tourner contre son gouvernement. Mais le peuple syrien, politiquement, est extrêmement, comme le peuple iranien d'ailleurs, extrêmement astute. Il a parfaitement compris la manœuvre. Ce sont des peuples fiers qui sont parfaitement en mesure de voir l'aspect grossier de ce genre de manœuvre. Et ils n'ont pas... certainement pas tenter, ne serait-ce qu'une seconde, de se laisser embobiner. Hein. Ce que je voudrais dire peut-être aussi, c'est que malgré tout, il y a peut-être une possibilité au travers de cette tragédie de prendre un peu les ennemis de la Syrie à revers, à contre-pied, parce que, effectivement, n'oublions pas, l'épicentre était situé à Gaziantep, donc 8,1 sur l'échelle de Richter, c'est énorme, avec des répliques dans les 7-4, 7-6, tout est pratiquement réduit, à néant dans cette région de la Turquie. Donc, on peut penser que le gouvernement d'Erdogan est lui-même maintenant dans une position où il n'a pas d'autre choix que, plus que jamais, accélérer le processus initié au mois d'octobre dernier lors d'une rencontre tripartite à Moscou, afin d'essayer de se dégager d'une situation politique qui, à l'approche des élections présidentielles turques, maintenant rend les choses extrêmement compliquées. J'ajouterais à ça que des membres éminents de son gouvernement, et cela à peine 48 heures avant la catastrophe, ont eu des propos extrêmement virulents à l'encontre des États-Unis, accusant et laissant entendre que ces propos étaient dirigés à l'encontre de l'ambassadeur des États-Unis à Ankara, que toute tentative de déstabilisation serait adressée de manière vigoureuse et qu'il ne s'avise pas d'essayer de refaire ce qui semblerait avoir été tenté en 2016. On sait maintenant, on a vu la couverture du Nouvel Économiste, ce sont en général des messages subliminaux, le gouvernement d'Erdogan est sur la liste des changements de régime. Ils ont d'ailleurs mis en place une cellule à cet égard, et sous la supervision de John Bolton, de triste mémoire. Et donc, il est clair qu'à Washington, Erdogan doit partir. Et on peut penser que dans cette optique-là, le processus d'une sortie de crise, d'une évacuation de l'armée turque de la Syrie, procède malgré tout dans la bonne direction. Sinon, les Américains ne se montreraient pas si virulents.
Absolument.
C'est ce que je peux dire.
Oui. Aïssar Midani, est-ce que vous partagez donc l'avis de Maître Develay? Est-ce que ça va changer les choses, sauf fléau naturel?
On peut espérer. Moi, je peux dire que effectivement, cette catastrophe commune, en fait, dans laquelle nous sommes ensemble le pied dans le même étrier avec la Turquie, qu'elle puisse favoriser ce mouvement de rapprochement, effectivement, qui a été commencé et que pour lequel c'était pas évident de toute façon. Je dirais la Syrie est toujours de toute façon partante pour elle n'a agressé personne et elle attend effectivement des mesures concrètes de la part de la Turquie, notamment le retrait des terrains syriens, l'évacuation de son armée et puis le retour en fait de l'armée arabe-syrienne sur toutes les frontières avec la Turquie et surtout l'évacuation d'Idlib et par les l'armée turque et les terroristes qui jusqu'à présent ont été dirigés par la Turquie et par l'armée turque. Donc, maintenant, peut-être certaines choses vont changer parce qu'il y a des aides occidentales à profusion qui arrivent en Turquie, d'une part. D'autre part, il y a aussi un soutien qui passe aux terroristes à Idlib sous le prétexte de aide humanitaire ce sont les endroits qui ne sont pas contrôlés par l'armée arabe syrienne. Il y a aujourd'hui 15 000, je viens d'entendre en fait qu'il y a 15 000 casques blancs qui débarquent à nouveau à Idlib, soi-disant pour sauver les gens. Je crois qu'il y a, j'espère qu'effectivement, il y ait une fermeté dans la volonté de ce rapprochement avec la Syrie dans le pouvoir turc. Parce que, en fait, ce n'est pas la Syrie qui a mené la guerre à la Turquie, c'est plutôt la Turquie qui a agressé la Syrie et qui a fait passer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, de terroristes par ces frontières qui ont tout cassé en Syrie, qui continue en fait aujourd'hui jusqu'à avant le tremblement de terre, continuer à agresser la population, qui continue à bombarder les villages. D'ailleurs, je peux dire que les effondrements d'immeubles en série là qui arrive avec le tremblement de terre, bien qu'il ait été en Syrie un petit peu moins fort, peut-être au niveau réplication, un petit peu moins fort que ce qui s'était en Turquie, mais l'effondrement de tous ces immeubles, c'est tout ce qui a été fragilisé pendant 12 années de guerre, de tirs, de missiles, là, ce qui rend aussi les opérations de sauvetage très difficiles, c'est même les centrales électriques, même tous les moyens de vie, les équipements, le matériel roulant, les ambulances, les hôpitaux, tout ça, ça a été détruit. Les écoles ont été détruites pendant ces 12 années de guerre menées par ces terroristes, sous direction de l'OTAN des États-Unis, mais dont aussi la tête avancée était la Turquie. Donc en fait, je peux dire, si cela cessait et si les destructions arrêtaient et qu'aujourd'hui on puisse ouvrir effectivement la possibilité à la Syrie de pouvoir importer du matériel qui permet de soulever tous ces poids qui tombent sur les gens et qui et sortir des gens peut-être vivants dessous les décombres, c'est ça aussi. On n'a plus de matériel lourd, on n'a pas de grues, on n'a pas. Donc tout ceci, ça contribue au mal-être, je dirais, des Syriens aujourd'hui, encore plus avec la catastrophe. Et on espère qu'on va pouvoir surmonter, malgré tout, par la volonté, par les déterminations, par cette foi dans notre lutte et dans la vérité, que de toute façon, on veut rester maître de nos décisions, on veut rester dans le camp de nos
tout à fait.
Dire, de nos oui. De nos de l'axe de la résistance et dans le camp qui se profile de plus en plus aussi dans le monde.
Absolument.
Contre l'hégémonisme et pour un monde qui traite tout le monde sur le même pied d'égalité et avec un respect des peuples, un respect de leur dignité, un respect de leurs ressources. et le droit de décider d'eux-mêmes, et surtout aussi en échangeant avec leur propre monnaie.
Donc, oui, bien.
En Aïssa, se dégageant du dollar américain.
Tout à fait.
Voilà.
Eh bien, Aïssa Hamidani, analyste franco-syrienne, qui est avec nous depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et un grand merci
C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de nous permettre aussi de faire venir arriver notre voix, car elle est occultée de partout, la voix des Syriens.
Absolument. Et un grand merci à Maître Arnaud Develet, qui nous a accompagnés depuis Moscou et pour l'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'Iran et son septième art. Kamaluddin Behzad, maître incontesté de la miniature persane. Le maître Kamaluddin Behzad est sans doute le plus grand peintre et portraitiste du XVe siècle de l'Égypte. Nous savons très peu de sa naissance et de sa généalogie. La seule certitude est qu'il devint orphelin très jeune et fut élevé par Mirak, probablement l'un de ses lointains parents. Mirak, armurier de métier, pratiquait la calligraphie et aujourd'hui encore, l'on peut voir de vieilles bâtisses à Herat qui furent décorées de sa main. Il avait un goût artistique très prononcé qui transmit au jeune Behzad, ce qui permit à ce dernier de se familiariser dès l'enfance avec la calligraphie, qu'il abandonna rapidement au profit de l'enluminure. L'enfant était très doué. Mirak s'en rendit compte et l'envoya auprès d'un des chefs de file de l'école de Herat, Valiullah Khan. Sous la férule de ce grand maître, il montra de si bonnes aptitudes qu'il fut très vite remarqué et gravit rapidement les échelons hiérarchiques pour être nommé bibliothécaire du roi Hossein Bayrara. Ce dernier, grand mécène et monarque éclairé, bien qu'héritier de Tamerlan et de son patrimoine de massacres et de destructions, avait su rassembler autour de lui artistes en tout genre, lettrés, poètes et peintres. Ainsi, diverses écoles virent le jour et l'art, particulièrement l'art de la miniature, connut une expansion considérable et sans précédent. L'époque timouride, et surtout le règne du roi Hossein Bayrara, fut l'une des plus fécondes dans le domaine de l'art persan et de toute manifestation de civilisation persane en général. Behzad étant l'un des plus illustres représentants de cette faste période. Une fois devenu bibliothécaire du roi, il profita de l'occasion qu'il avait de côtoyer les grands maîtres vivants et s'imprégna des techniques de ses prédécesseurs défunts, complétant ainsi activement sa formation. Behzad était donc extrêmement doué et commença jeune son métier de miniaturiste en copiant certaines œuvres célèbres. Il fut également remarqué très tôt par le ministre du sultan, Nizam ed-Din Amir Alishir, célèbre mécène qui aimait s'entourer d'artistes et de poètes et qui l'aida à devenir le portraitiste attiré du sultan. Dans sa Badai-ol-Varayé, Vasifi de Herat met l'accent sur le génie du jeune maître en racontant une petite anecdote. Les nobles étaient rassemblés auprès du roi quand Behzad, à l'époque âgé de 20 ans,
fit son entrée pour présenter au souverain la miniature qui le représentait debout dans son parc. La vue de la miniature charma les invités et provoqua d'abord un profond silence qui se transforma en transport d'applaudissements et de compliments qui durèrent près de 2 heures. Dès lors, Behzad occupa une place à part parmi les miniaturistes et commença à enseigner à d'autres le secret de la magie de son pinceau. Il ne vécut que pour son art et porta à l'extrême sa recherche d'une vision picturale épurée, ésotérique et mystique. Il manifestait une nette attirance pour le soufisme et la voie mystique tracée par le poète Jami qu'il suivit sa vie durant. Il essaya d'ailleurs, au début de sa carrière, de transférer la technique poétique de ce dernier dans sa peinture. Behzad passa le restant du règne du roi Hossein Bayrara à son service, en tant que chef bibliothécaire et miniaturiste attiré. Cependant, au début du XVIe siècle, Shah Beg Khan Sheibani renversa la dynastie timourite à Herat, où vivait le célèbre miniaturiste. Peu de temps auparavant, ce dernier avait été très affecté par la mort de son maître Mirak et de son vieux protecteur Alishir. Le nouveau roi, Shah Beg Khan, était un homme dur et orgueilleux qui ne manifestait pas un intérêt particulier pour l'art. On dit qu'il poussa l'impudence jusqu'à corriger, pinceau en main, les dessins de Behzad et d'autres peintres, tandis qu'il leur demandait de rester debout en rang et leur expliquait les carences de leur art. Mais le règne de Shah Beg Khan ne se prolongea guère. 3 ans plus tard, il fut vaincu par le roi Safavid Ismail Ier, qui prit Herat sans effusion de sang. Après 3 années de léthargie et d'immobilisme forcé, le début de l'ère Safavide marqua le début d'une nouvelle époque pour l'art et un renouveau pour Behzad et ses collègues. En effet, le respect des Safavides pour les Timourides et leur passion envers tout ce qui était persan les incita dès leur arrivée au pouvoir à protéger les artistes. Shah Ismail nomma le grand maître Behzad à la tête de toutes les bibliothèques du royaume, ce qui signifiait que Behzad devait désormais contrôler et juger le travail de tous les calligraphes, miniaturistes et relieurs du royaume. Il conserva cette place une 20aine d'années, après quoi les Ouzbeks, dont les attaques incessantes finirent par briser les défenses de la ville, envahirent Herat, obligeant la cour et ses artistes à évacuer la ville. Malgré cela, certains calligraphes comme Mir Ali, Sheikh Zadeh ou Mala Youssef tombèrent aux mains des Ouzbeks et furent emmenés à Bokhara, où ils fondèrent l'école du même nom qui connut son moment de gloire à secours au demeurant. Car au fil des années, le manque de talent contribua à nuire au développement de cette école. Finalement, le roi Tahmasp réussit à vaincre les Ouzbeks et reprit Herat. Il voulait cependant regagner sa capitale Tabriz et après bien des discussions, il obligea Behzad et d'autres artistes à l'accompagner. Dans cette ville, Behzad reprit son poste à la bibliothèque royale. C'est à cette époque qu'il fut chargé de terminer l'enluminure du livre des rois de Tahmasp, chef-d'œuvre d'enluminure de la période Safavide. Le ton patriotique des Safavides donna un nouveau souffle à la miniature, qui abandonna un peu le mystico-romantisme des Timourides. Malgré cela, Behzad, dans ses œuvres personnelles et indépendantes, conserva son ton mystique, que l'on peut observer dans des miniatures telles que « Le vieillard et le jouvenceau » ou la bataille de Chamon. Copié plus tard par ses élèves, avec quelques changements altérant le sens que Behzad avait voulu leur donner. Behzad a eu de nombreux élèves, dont les plus importants à Herat sont Rassem Ben Ali et Sheikhzadeh Mahmoud Mozaheb. Ce dernier, emmené par les Ouzbeks à Bokhara, y fonda l'école de Bokhara, qui, en réalité, suit la voie mystique de Behzad, en y créant de beaux chefs-d'œuvre. Behzad mourut en 1536 à Tabriz. Après sa mort, ses élèves perpétuèrent ses techniques et certains, après la perte d'intérêt du roi Tahmasp pour la miniature et en réponse à l'invitation du roi Homayoun, prirent le chemin de l'Inde. Ils y fondèrent, sous la protection des Mongols d'Inde, l'école indienne de la miniature qui fut à la source de la formation du courant artistique le plus important après Behzad.